Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Et oui, 6h avant minuit, heure d'été. Nous sommes le lundi 7 avril 2025. Vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Trop bonne idée. Je concours. Vous pouvez gagner 2 places, je vous le rappelle, pour le spectacle du Pokémon Crew au Ponant de Passé. C'est le vendredi 18 avril prochain à 20h. Le Pokémon Crew, c'est du breakdance, du hip-hop. Vous les avez peut-être vus aux Jeux Olympiques pour jouer et pour gagner un mot de passe. Trou de mémoire.
Trou de mémoire.
J'ai pas celui-là.
Power move.
Ah oui.
C'est une figure, apparemment.
Power move.
Je me suis renseignée.
S'il te plaît, Elise.
Tout de suite après l'émission. D'abord ton flash, Cyriane.
Une enquête de toute urgence. Ce lundi, lors d'une conférence de presse, Berlin a appelé à ouvrir une investigation sur la mort des secouristes à Gaza, tués par des tirs israéliens sur leurs ambulances. Un appel lancé à la suite de la diffusion d'une vidéo postée samedi sur X par le Croissant Rouge palestinien. Le document contredit donc la version des faits d'Israël, affirmant avoir ouvert le feu sur des terroristes à bord de véhicules suspects circulant phare éteint. La vidéo retrouvée est issue du téléphone de Rifat Radwan, assassiné lors de l'attaque. On y voit clairement que les ambulances sont identifiables avec leurs gyrophares allumés. Hier, des bombardements israéliens dans la bande de Gaza ont donné la mort à 44 personnes. C'est le bombardement le plus meurtrier depuis la fin de la trêve entre le Hamas et Israël le 18 mars dernier. 5000, c'est le nombre de femmes européennes se rendant chaque année dans un autre pays pour pouvoir avorter. C'est ce qu'on apprend dans une enquête internationale coordonnée par le journal espagnol Publico et en collaboration avec des médias et des journalistes européens et européennes de plus de 10 pays. Mais d'où vient ce chiffre ? Alors que l'interruption volontaire de grossesse est légale partout, sauf en Pologne. La première raison est la plus évidente, celle du délai légal pour avorter variant selon les pays. Une personne peut donc avorter jusqu'à 24 semaines après la fin de ses règles aux Pays-Bas, là où au Portugal c'est seulement 10 semaines. Viennent ensuite les conditions du droit à l'avortement. Parfois les femmes doivent présenter une raison de santé vitale pour en bénéficier. C'est le cas en Hongrie par exemple. Enfin, tout dépend aussi des praticiens et praticiennes, pouvant invoquer l'objection de droit de conscience pour ne pas avoir à pratiquer d'IVG. Mara Clark, cofondatrice du Supporting Abortions for Everyone et fondatrice de l'Abortion Support Network, explique, je cite, « Si on regarde en Europe, de nombreux pays semblent avoir une loi parfaite. Cependant, si l'on prend l'Italie, où l'avortement est pratiqué jusqu'à 12 semaines dans la moitié sud du pays, 95% des médecins ne le pratiquent pas. » Les droits de douane continuent de s'imposer aujourd'hui. Depuis samedi dernier, l'imposition de 10% de taxes douanières sur tous les pays importés aux États-Unis est entrée en vigueur pour tous les pays. Et ça commence à faire son effet.
C'est la chute libre pour tout le monde. Les marchés asiatiques, les marchés européens, les principaux indices des bourses sont tombés et baissent de 2,32% pour Milan à 13,22% pour la bourse d'Hong Kong. Selon Mediapart, l'indice phare européen, le DAX allemand, a dégringolé de 7,86% avant de se stabiliser à 5% cet après-midi. Voilà le traitement de Donald Trump au reste du monde. Et je dis bien traitement, car interrogé hier par des journalistes aux abords de son avion présidentiel, le président américain a comparé la panique économique actuelle à un traitement pour se soigner. Selon l'AFP, le républicain reproche à ses partenaires commerciaux d'avoir pillé les États-Unis. Les Européens veulent discuter, mais il n'y aura pas de discussion tant qu'ils ne nous donneront pas beaucoup d'argent sur une base annuelle, a ajouté Donald Trump, faisant référence aux dernières demandes de négociation par l'Union européenne. Et le traitement n'a pas fini de faire effet. D'après le calendrier présidentiel américain, une nouvelle hausse des taxes douanières pour les principales puissances mondiales devrait entrer en vigueur mercredi prochain, atteignant 20% pour l'Union européenne et 34% pour la Chine.
Et est-ce qu'il y aura des traitements en retour des forces mondiales envers les États-Unis, Eva ?
La Chine n'a pas perdu de temps samedi dernier pour annoncer l'imposition de taxes douanières de 34% sur les importations américaines dès le 9 avril, choisissant le même taux qui leur est imposé. De leur côté, les dirigeants européens se réunissent aujourd'hui au Luxembourg pour préparer la réponse européenne aux États-Unis. Il ne faut exclure aucune option et ouvrir la boîte à outils européenne et peut-être qui peut être extrêmement agressive également en retour, a confié aujourd'hui le ministre français du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, rapporté par France Info. A noter que le ministre a également mentionné l'instrument anti-coercition qui pourrait permettre, si utilisé, de geler l'accès au marché public européen ou de bloquer les investissements. En fin d'après-midi, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé que l'Union européenne a proposé aux États-Unis une exemption de droits de douane totale et réciproque pour les produits industriels. Elle déclare lors de cette même conférence de presse à Bruxelles que l'Europe est toujours prête à conclure un bon accord avec les États-Unis.
Du côté états-unien, même si l'instigateur de la guerre commerciale Donald Trump ne pense pas que l'inflation sera un grand problème, comme le rapporte l'AFP aujourd'hui, les économistes, eux, sont d'avis différents. Nous pourrions assister très rapidement à une récession aux États-Unis, a déclaré Steve Cochrane, économiste en chef pour la région Asie-Pacifique chez Moody's Analytics. Aujourd'hui, la bourse de Wall Street a elle aussi chuté d'environ 3%. Vous privez-vous de certains produits d'hygiène pour des questions d'argent? N'ayez honte, car c'est le cas de 47% de Français et Françaises, d'après un sondage mené par l'IFOP pour l'association Don Solidaire, publié aujourd'hui dans Le Parisien. Une donnée en dangereuse augmentation, puisqu'en 2023, c'était 34% des personnes qui déclaraient s'interdire l'achat de ces produits. On note également, dans le rapport, les 17% de Français et Françaises ayant eu à choisir entre produits d'hygiène et nourriture au cours de l'année dernière. Un an de plus. Hier, dans un entretien publié dans Libération, Catherine Vautrin, ministre des Solidarités et des Familles, a annoncé l'extension d'un an de plus du mandat accordé à la Commission sur les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVISE, une instance créée en 2021 après l'électrochoc produit par le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. Une prolongation voulue par l'instance selon laquelle il n'y avait toujours pas les fondations d'une véritable politique publique contre les violences faites aux enfants et l'inceste. Catherine Vautrin a également indiqué un avis favorable immédiat donné à 9 des 15 propositions formulées par la CIVISE dans son rapport, dont la généralisation des cellules de signalement dans toutes les administrations. La ministre a également annoncé l'ouverture de 25 nouvelles unités d'accueil pédiatrique pour l'enfance en danger en 2025, alors que la Commission demande leur extension à tout le territoire français. Du nouveau dans l'affaire du 1988. Ce vendredi, le Télégramme a révélé que l'ancien chef de la sécurité de la boîte de nuit, Jovan Delourme, dit le Jarl sur les réseaux sociaux, n'avait aucune autorisation pour exercer. Le journal reprend les mots du CNAPS, Conseil national des activités privées de sécurité, le service de l'État en charge d'encadrer le secteur. Une institution délivrant et retirant les autorisations permettant d'exercer les activités privées de sécurité. Autorisation à laquelle peut s'ajouter une formation, une autorisation provisoire, une carte professionnelle ou encore un agrément des dirigeants ou dirigeantes d'établissement. Mais voilà, ces formalités, l'ex-candidat suppléant Reconquête aux législatives de 2022 ne s'y est pas plié. Pour rappel, le Jarl est au cœur d'un scandale, le mettant en cause lui et ses agents. Il a violemment réprimandé une fête gratuite ayant eu lieu dans les anciens cinémas désaffectés du centre de Rennes au-dessus du 1988. Photojam, vous connaissez? Non? Eh bien laissez-moi vous expliquer. Le concept est simple, c'est une journée de shooting photo à la suite pour capturer l'identité musicale de plusieurs artistes. Plutôt sympa, non? Je pense qu'on peut être d'accord.
Ça va.
Oui, ça va, c'est sympa.
Ça a l'air cool.
Eh bien, ce samedi, l'agence de production audiovisuelle Mondréel en organise un dans leurs locaux et c'est totalement gratuit avec des créneaux de 45 minutes par shooting. L'occasion d'échanger et de partager avec des professionnels du milieu. Alors, si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur Facebook Mondréel. Et si vous n'êtes pas une star de la musique, j'ai quand même quelque chose à faire pour vous samedi.
Ouf.
Heureusement.
Bah oui, quand même, je pense
ça à vous. Ça va, Eva, toi, t'es une star de la musique.
Dans mon salon.
Et donc, à retrouver entre DJ set allant de la musique brésilienne à de la house, en passant par du reggaeton et du vijing, le label Oye vous invite à rentrer dans son circus, comme il l'appelle, lors de son événement à la ferme de Quincy. Hugo Le Fur, membre du collectif et organisant la résidence qui a lieu toute la semaine dans la ferme, nous explique les origines de l'association et ce qui va se passer.
Foyer, du coup, c'est un label d'art visuel d'abord qu'on a fondé en sortant d'école quand on était à Paris avec plusieurs membres de la même classe. On l'a fondé en 2015, donc là cette année c'est les 10 ans de l'asso. Et c'est un collectif qui s'est construit d'abord autour du VJing et du mapping. VJing, c'est le principe de projeter de la vidéo en direct. Comme pour DJing, c'est le fait de jouer de la musique et des disques en direct. Le VJing, c'est le fait de projeter des vidéos et de les jouer en direct. Et le mapping, du coup, qui est un de ses dérivés, a pour objet vraiment le fait de projeter sur des surfaces comme des bâtiments. Donc là, c'est une résidence qu'on a commencé donc aujourd'hui même. Là, c'est le premier jour. On est en train de donc tous les artistes sont en train d'arriver. Il y a des artistes donc qui font partie du collectif Oyer et d'autres qui ne font pas partie du collectif mais qu'on a invité pour l'occasion. C'est une résidence du coup qui a un peu pour but de préparer une tournée de festival qu'on fait cet été. Donc en fait, chaque été, on se réunit, on fait une tournée avec notre yourte qui s'appelle le Oyer Circus. En fait, qui est une sorte de scène itinérante dans laquelle on choisit de jouer différents spectacles audiovisuels. Et donc, cette semaine, on a décidé de se réunir pour commencer à préparer les spectacles, réouvrir un peu les dossiers liés aux spectacles des artistes et surtout, du coup, préparer l'événement de samedi prochain qui sera un peu une sorte de condensé de ce qu'on peut présenter dans notre yourte pendant les festivals en été. C'est notre deuxième événement à Rennes, samedi, là. On est sur un total d'environ 13 artistes. La ferme de Quincey ouvre à 16h et ça se termine à 23h, donc on a essayé de caser le plus de spectacles possible. Tout au long de la journée, il y aura donc un atelier d'initiation au VJing sur des vieilles télés cathodiques par Camille, qui est une artiste parisienne et qui fait du glitch art. C'est le principe de la modification des signaux vidéo de façon analogique, quoi, de la détérioration du signal vidéo de façon analogique sans passer par des ordinateurs. Et il y aura aussi une installation Visiophare. Donc Visiophare, ce sont des rétroprojecteurs low-tech. Il y aura un atelier de projection participatif où les gens dessinaient sur des calques transparents pour ensuite les projeter durant la nuit sur la façade de la ferme de Quincey.
Et le tout est à prix libre, de zéro à ce que vous voulez, l'argent récolté revenant directement à Oyer et leur permettant de poursuivre leur tournée des festivals. C'est la fin de ce flash.
Merci Cyrienne, et c'est l'heure de l'interview. Eva a plein d'invités ce soir dans le studio.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Qui reçois-tu, Eva ?
3 étudiantes de Sciences Po. À ma droite, j'ai top rayé rose et en diagonale j'ai Victoire veste verte.
Bonjour.
Et en face de moi j'ai Luna avec un haut foulard et surtout vous avez toutes plein de bijoux très stylés, faut aussi le dire. Je peux pas tous les décrire mais bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous venez pour présenter Un printemps en Asie, un festival de cinéma. Donc est-ce que tout d'abord on peut présenter ce festival?
Oui, bah alors on est des étudiantes de Sciences Po et on fait partie, chaque année, il y a un festival Un printemps en Asie qui est organisé, c'est la 6e édition aujourd'hui. Et en fait, c'est mené par des étudiants chaque année pour mettre en avant les cinémas asiatiques dans leur diversité et faire découvrir au bassin rennais des cultures qui ne sont pas forcément représentées dans le cinéma actuel en France et plus particulièrement ici. Donc c'est une volonté de mettre en avant chaque année un thème et un ou plusieurs pays. Donc cette année, on met en avant la Chine et avec le thème identité chinoise.
Et donc, est-ce que vous savez comment est-ce que ça s'est fait aux origines, puisque c'est la 6e édition, de quoi c'est parti globalement ?
C'était la passion en fait, de plusieurs étudiants en master culture à Sciences Po Rennes pour le cinéma asiatique. Et donc la volonté aussi de partager ses connaissances, mais aussi surtout, je pense, son amour et de faire découvrir, je pense, le cinéma à plus grande échelle et surtout à tous et pas seulement aux cinéphiles.
Oui, c'est aussi dans le cadre de de modules projets qui sont réalisés à Sciences Po Rennes, qui remplacent des cours en fait et qui encourage les étudiants à apporter des projets. Et dans le master culture, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on peut mettre en place des projets culturels comme celui-ci en rapport avec le cinéma.
Et vous dites donc que c'est la 6e édition, que chaque année, c'est des thèmes différents. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui diffèrent peut-être de cette 6e édition, des nouveautés
Alors cette année, on est en partenariat justement avec l'Institut Confucius de Rennes. Donc c'est justement pour ça que nous avons décidé de mettre la Chine en avant. C'est surtout ça. Et avec, pardon, le festival de cinéma d'auteur chinois Aller-Retour.
Et donc dans la construction du festival, donc oui, vous travaillez avec des partenaires. Est-ce que c'est principalement vous qui faites la programmation? Comment est-ce que vous divisez un peu les tâches? Est-ce que c'est entre vous?
Alors justement, Victor en parlait du festival Aller-Retour. C'est un festival de cinéma d'auteur chinois avec lequel on a travaillé pour justement choisir notre programmation par rapport aux films que eux ont diffusés. Donc ça nous a beaucoup aidé parce que les années précédentes, c'était avec le Théâtre National de Bretagne qu'on organisait notre programmation. Et c'est un peu la nouveauté de cette année, c'est de travailler en partenariat avec le festival Aller-Retour.
Et oui, vous avez parlé du thème. Du coup, c'est l'identité, enfin, les identités chinoises.
C'est ça.
C'est ça. Comment est-ce que vous avez choisi ce thème-là?
Je pense qu'on a choisi ce thème-là parce que ça permet d'avoir une vision plus intime et de la société, parce que c'est un thème assez complexe et qui aborde des thématiques très diverses, comme la quête de sens, la confrontation entre le traditionnel et le moderne. Donc je pense que ça offre une belle vision et une belle compréhension de ce qu'est la Chine actuellement.
Et donc, comment est-ce que... Donc, vous avez parlé du festival Aller-Retour pour vous aider à programmer. Mmh. Est-ce que ça a été, vous diriez, facile, compliqué à trouver la prog finale?
Oui, comment ça s'est... Bonne question, parce que comme c'était la première fois, c'est vrai que nous, on est des étudiants, donc on n'a pas encore forcément trop l'expérience dans l'industrie cinématographique. Donc, on a appris tout ce qui tournait autour des droits, etc. Et d'ailleurs, on a pu compter sur l'aide du TNB, qui est toujours un de nos partenaires et qui nous met à disposition ces salles et qui a pu nous éclairer sur ces questions-là. Et donc oui, on a heureusement qu'il y avait cet intermédiaire du TNB, mais aussi de l'Institut Confucius, quand on avait nos réunions avec Aller-Retour, parce que c'est vrai que comme on est des étudiants, on n'avait pas toujours les codes, en fait.
Et je trouve la particularité de notre projet, c'est qu'en fait, on fait vraiment tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on n'y connaît rien en programmation et tout d'un coup, on se retrouve avec une liste de 150 films et on se dit, OK, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce que les gens vont aimer ce qu'on choisit? Et par rapport aux autres éditions, on était vraiment livrés à nous-mêmes. Cette année, c'était vraiment hyper intéressant aussi d'avoir déjà une programmation pré-mâchée, entre guillemets, parce qu'il avait déjà été proposé par un festival de cinéma d'auteur chinois en France. Et ça nous a aussi facilité beaucoup de choses parce qu'on a la particularité de présenter cette année des films qui n'ont jamais été diffusés en France, qui n'ont pas de distributeur français et qui n'ont été diffusés que via ce festival. Donc c'est un peu le moment, si vous voulez voir ces films ou jamais. Et du coup, ça nous a permis d'avoir les intermédiaires directement avec les distributeurs chinois. Et cette année, on n'a pas eu à faire ce travail-là par nous-mêmes, de négocier les frais de distribution, ce genre de choses, parce que ce serait très compliqué, en fait, culturellement parlant.
Et donc là, il y a 6 films sur 3 jours, c'est bien ça. Et oui, vous avez parlé que ça allait pas mal au rapport à soi, rapport avec famille, rapport aux autres. Comment est-ce que, si on peut parler un peu des films, comment est-ce qu'ils abordent ça ou pour mettre un peu en avant?
Alors, chaque film l'aborde un peu d'une manière différente, justement. On peut peut-être faire un petit tour de chaque soirée. Mais
donc, demain, pour commencer ce festival, sera diffusé Springtide à 19h. Donc, c'est vraiment l'histoire de 3 générations de femmes qui vont vivre sous le même toit. Donc, ça va, rebondissement, étincelle. C'est ça qui va justement être un peu intéressant. Ensuite, ça sera suivi par Drifting. C'est vraiment l'histoire de personnes sans abri en Chine qui sont rejetées par la société et qui vont décider de se rebeller face à cette injustice, justement.
Ensuite, on a la deuxième journée, donc le mercredi 9 avril. Le premier film à 19h, c'est un documentaire, en fait, notre premier documentaire, qui est très intéressant parce qu'il parle de la politique de l'enfant unique qui a eu lieu en Chine auparavant, mais qui a toujours des enjeux dans la société chinoise aujourd'hui. Et le documentaire le met bien en avant parce qu'en fait, c'est autobiographique et ça parle justement de quelqu'un qui a été concerné par cette politique. Et le deuxième, qui est à 21h, Kissing the Ground You Walked On, qui parle d'une rencontre entre deux jeunes hommes et de ce que cette rencontre peut leur apporter mutuellement. dans un milieu artistique. Donc voilà, une ambiance fictive, c'est une fiction également. Donc voilà, très sympa.
Et pour clôturer Nikon Film Festival avec Blue Summer d'abord à 19h, qui est un petit peu plus léger, qui va mettre en avant et confronter un peu la relation d'une adolescente avec une autre jeune fille, son rapport avec son père et avec cette jeune fille qu'elle rencontre, et elle va à travers ça découvrir aussi une sorte de fascination, peut-être sa sexualité, etc. Vraiment l'idée de découverte de soi-même à l'adolescence. Et on finit le festival à 21h avec The Last Year of Darkness, qui est un documentaire également sur le milieu underground en Chine à Zhangdu plus précisément, et qui va mettre en avant toute cette nightlife un peu qui n'est pas vraiment mise en avant, et aussi tous les problèmes auxquels ils sont confrontés dus à des enjeux plus modernes et plus politiques.
Est-ce que, par rapport à ces films et ce qu'ils racontent, est-ce que, selon vous, dans ces films-là, on remarque aussi des différences, par exemple, notables entre les relations humaines occidentales et les relations humaines dans la société chinoise?
Ouais, je pense que, par exemple, pour Springtide, qui est le premier film qu'on projette et qu'on présente, donc comme Victoire l'a dit, c'est trois générations de femmes, et en fait ce qui est super intéressant, c'est que c'est du coup une même famille, la grand-mère, la mère, la fille, et en fait on voit aussi à travers ça le passé de tradition et de pression sociale, la pression sociale notamment de la mère sur sa fille, la pression du mariage, de certaines choses qui sont encore très présentes liées aux traditions dans la société, et à des formes de normes qui peuvent être vraiment très particulières en Chine et un peu plus différentes en France. Donc c'est intéressant de voir qu'on a tous les mêmes enjeux mais qui sont vraiment vécu de manière différente.
Et pour revenir sur cette société chinoise actuelle aussi, comment trouver et assumer son identité dans une société qui est ultra surveillée, qui réprime des droits humains? Est-ce que peut-être dans les films il y a des réponses à ça ou...
Oui, justement, en fait, c'est ce qu'on veut montrer à travers notre festival, c'est qu'on peut construire son identité dans d'autres milieux, de d'autres manières, et il y a pas mal de films qui proposent ça, par exemple le dernier là, du jeudi, The Last Year of Darkness, qui parle d'un milieu un peu underground, si je puis dire, où les jeunes peuvent développer leur personnalité en dehors des cases parfois que le gouvernement peut imposer.
Et je pense aussi juste le fait de présenter des films d'auteurs chinois, c'est aussi un moyen de montrer qu'on peut faire du cinéma et quand même avoir une certaine liberté dans ce qu'on montre, même si on est justement dans une société contrôlée, et qu'à travers l'art, à travers le cinéma, on peut quand même aussi s'exprimer.
Et lors du festival aussi, dans l'après-midi, cette fois, il y a deux ateliers également.
Malheureusement, ils ont été annulés.
Ah, pardon.
Pas de souci. Oui, on est très déçus aussi. Ils ont été annulés pour raisons personnelles de la personne qui les organisait.
Donc ce sera principalement en soirée.
Voilà,
donc,
c'est ça.
Au TNB.
De 19h et 21h.
Et est-ce que, j'ai vu qu'il y a un horaire à 19h puis un horaire à 21h. Mm-hmm. Est-ce que c'est possible de les enchaîner?
Bien
de
sûr, c'est fait exprès.
Oui, je
vais
demander. Bon, parfait. Et donc c'est à partir de demain.
Demain. Jusqu'à jeudi.
Jusqu'à jeudi. Et pour avoir plus d'infos sur...
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Festival Un Printemps en Asie, ou sur notre site internet, pareil, Un Printemps en Asie.
Vous avez aussi la programmation qui apparaît sur le site du TNB.
Et moi, j'ai une petite question complémentaire, si tu permets, Eva, vu qu'il nous reste un peu de temps. On parle d'identité chinoise, il y a une identité que vous n'avez pas du tout abordée, c'est celle des Ouïghours. Minorité musulmane en Chine qui est très réprimée. Est-ce que c'est un choix de votre part de pas avoir abordé cette identité, ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas trouvé de films qui font écho à cette réalité?
En fait, c'est surtout qu'on a eu quand même c'était à la fois une aide, mais à la fois une très grosse limite dans notre liberté par rapport peut-être aux éditions précédentes, c'est qu'on devait montrer des films qui ont été déjà proposés par le festival aller-retour les années précédentes. Donc on est obligé de piocher dans leur programmation parce que c'est eux qui nous font aussi les frais de sous-titres, les, qui ont fait les sous-titres. C'est-à-dire que sinon, les films seraient diffusés en chinois et puis bah, bonne chance à tous. Donc on est très limité et aussi on a dû construire nos thèmes et notre programmation avec cette à la fois force et faiblesse parce que du coup, on n'a pas accès à tout l'ensemble des films chinois ni l'ensemble des films d'auteurs chinois.
Et aussi, pour rappel, donc les séances, elles sont à 6 euros et à 5 euros pour les étudiants et les étudiantes.
C'est ça.
Enfin, pour toutes les informations, de toute façon, vous pouvez aller voir sur leur site.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci donc, à vous. Dès demain jusqu'au 10 avril.
C'est ça, toutes les soirées au TNB.
6 heures avant minuit.
C'est lundi et le lundi, on décrypte la fake newsosphère. Et aujourd'hui, Eva, dans la loterie des théories complotistes, c'est le retour d'un secret bien caché, celui des pyramides égyptiennes.
Un secret qui aurait soi-disant été décelé par 3 chercheurs italiens fin mars dernier. Selon les 2 conférences de presse retransmises sur YouTube le 22 et 23 mars, Corrado Malanga, Armando May et Filippo Biondi auraient découvert que les 10 pyramides d'Égypte sont en réalité, je cite, « les sommets d'obélisques géants enfouis sous terre ».
Mais non.
Une révélation, Héloïse, qui n'en est pas une. Et oui, ah. On est dans fake news tout de même. Et pour aussi plusieurs raisons. La première raison tient en 3 noms. Vincent Rondeau, égyptologue français, directeur du département des antiquités du musée du Louvre, Guillemette André Lanoé, vice-présidente de la Société française d'égyptologie et ancienne présidente du conseil scientifique de l'Institut français d'archéologie orientale, ou encore Jean-Guillaume Aulette Pelletier, docteur en égyptologie à la Sorbonne. Ils et elles sont d'accord pour dire qu'aucune étude ne soutient la découverte des 3 chercheurs italiens. À l'AFP, le docteur Jean-Guillaume Aulette Pelletier explique que les pyramides sont des structures monumentales en pierre construites sur un plateau plat et assure qu'il n'y a aucune trace de réseau souterrain aussi profond que ceux évoqués. Car selon les déclarations des 3 scientifiques à l'origine de l'hypothèse, les pyramides seraient soutenues par des structures cylindriques allant à plus de 600 mètres de profondeur et qui seraient rattachées à un complexe souterrain de cubes gigantesques à plus de 2 km sous la surface terrestre.
C'est une description qui est quand même très spécifique. Quelles sont les origines de cette hypothèse, Eva ?
La théorie repose principalement sur l'utilisation d'un radar à synthèse d'ouverture, ou SAR, à l'intérieur de la pyramide de Khéphren. Pardon.
T'inquiète.
Utilisée en partie par la NASA, cette technologie est utilisée pour cartographier la surface terrestre. Mais, selon les témoignages de Lawrence Conyers, spécialiste des radars de l'université de Denver, les ondes radar s'atténuent progressivement dans le sol. Et il est donc impossible pour le SAR de détecter de telles structures à de telles profondeurs. Dans un communiqué sur la situation, Zahi Hawass, archéologue et ancien ministre des Antiquités égyptiennes, affirme que le Conseil suprême des Antiquités n'a accordé à ces personnes aucun permis pour effectuer des travaux scientifiques à l'intérieur de la pyramide Khéphren. Une deuxième raison pour laquelle cette découverte n'en est pas vraiment une. Et pour clôturer le tout, les 3 scientifiques italiens ne sont ni égyptologues, ni archéologues, et aucun archéologue et égyptologue reconnu n'a participé aux études et conférences de presse. Même si un des 3 a étudié l'ufologie, étude des ovnis. Et ça, je sais qu'il y en a une qui aime bien l'ufologie, hein, les ovnis.
Oui, mais chacun sa spécialité. Hein. Et puis, petite cerise sur le gâteau, la fausse étude a bien sûr fait le buzz sur les réseaux sociaux comme X et YouTube. Et s'accompagne aussi de publications vidéo et photos générées par l'intelligence artificielle. Fallait bien qu'elle soit dans le coup, Léa.
Toujours, elle revient.
On n'en peut plus. Merci Eva. Un dernier petit message avant de se quitter.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllabe, la radio sauvage.
Une idée de sujet à creuser pour nous, une remarque constructive sur nos reportages, nos interviews, un message intéressant à nous faire passer.
Oui,
exprimez-vous.
Dites-nous tout.
Laissez-nous un message vocal au 02 30 96 25-35. Merci Timothée pour la technique et à demain.
Sauvage.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.